Il est 18h à Kinshasa, 19h à Bunia, en Ituri. C'est l'heure de vous informer.
Radio Kapi.
Au sommaire de ce journal, relance l'agriculture dans le sud Ubangi. Le gouvernement vient de redynamiser les CDI Boamanda. Cette structure qui accompagne les agriculteurs a signé jeudi à Kinshasa un accord avec le ministère de l'économie. Un projet de près de 8 millions de dollars financé via les fonds de régulation économique. À la une également, cette bonne nouvelle en Ituri. Près de 200 otages des ADF sont désormais libres. C'est grâce aux opérations militaires menées par l'armée ces deux derniers jours dans les territoires de Mambasa. L'invité de ce journal est le chef de mission de surveillance du projet au sein de l'Agence congolaise des grands travaux, ACGT. Serge Dibwe parle des avancées des travaux de la route Kananga-Kalambambouji dans le Kasaï central. Merci encore une fois d'être avec nous, Jean-Claude Siala et Dedoné Nyangasa sur la technique et devant ce micro, Jean-Désiré Kanyama. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le gouvernement central franchit une nouvelle étape dans sa politique de relance du secteur productif. Le ministère de l'économie et le CDI Boamanda ont signé hier jeudi ici à Kinshasa un protocole d'accord pour redynamiser la production agricole dans la province du Sud Ubangi. À travers ce partenariat financé à hauteur de 7,7 millions de dollars via les fonds de régulation économique, les autorités attendent renforcer les filières maïs et soja, mais aussi améliorer les conditions de production des agriculteurs et garantir un meilleur approvisionnement des marchés, notamment à Kinshasa. Blaise Shindani Kambala nous fait le point.
Le projet prévoit notamment la distribution des semences améliorées, l'accompagnement technique des producteurs ainsi que le renforcement des capacités de transformation, de stockage et de transport des produits agricoles. Les fonds de régulation économique qui accompagnent cette initiative soulignent que ce type d'appui vise à stabiliser le prix des denrées de base tout en soutenant durablement la production locale. Pour les responsables du secteur, cette signature n'est pas un acte isolé mais l'aboutissement d'un processus engagé depuis 2024 après plusieurs missions d'évaluation menées par le ministre de l'économie dans les zones à fort potentiel agricole, dont les Sud-Ubangi. Sur le terrain, le CDI Boamanda, fort de son expérience dans l'encadrement des producteurs, voit dans ce partenariat une opportunité de relancer ses activités au bénéfice des populations rurales. Révérend Père Dominique Dewesana, directeur général des CDI Boamanda.
Ce programme vient en appui aux activités des CDI Boamanda. Ça vient redynamiser les activités des CDI Boamanda qui est habitué à accompagner les paysans. Et ici, il y aura question d'assurer la sécurité alimentaire, développer les filières agricoles et aussi valoriser la production locale. Avec cela, je pense que c'est une façon vraiment idéale et puis un modèle à suivre pour booster l'économie à partir de communautés locales.
À terme, ce programme devrait améliorer les revenus des agriculteurs, renforcer la sécurité alimentaire et contribuer à la baisse des prix des produits agricoles sur les marchés.
En bref, en République démocratique du Congo, de nouvelles structures des prix des produits pétroliers ont été adoptées hier jeudi à Kinshasa par le comité de suivi des prix des produits pétroliers, une structure gouvernementale. Cette décision intervient en raison de la guerre au Moyen-Orient. Dans la zone ouest, les prix du litre de gasoil augmentent de 205 francs congolais. Il passe de 2430 à 2735 francs congolais. Celui de l'essence prend 200 francs congolais de plus. Il est relevé de 2440 à 2640 francs congolais. Pour la zone sud, les prix à la pompe sont fixés à 3930 francs congolais le litre pour l'essence et 4435 francs congolais pour le gasoil. S'agissant de la zone est, le prix du litre d'essence revient désormais à 4400 francs congolais, tandis que celui du gasoil est fixé à 5600 francs congolais. En Ituri, la Monisco a remis aux populations du territoire d'Irumu un pont d'une capacité de 10 tonnes, construit dans le cadre d'un projet à impact rapide. Cet ouvrage, situé au village de Bavankoutou, facilite désormais l'évacuation des produits agricoles, la circulation des personnes, notamment les élèves, ainsi que les opérations de traque des ADF dans la zone. Les autorités coutumières saluent cette initiative qui contribue au développement local. Des détails avec Isaac Rémo.
D'une longueur d'environ 10 mètres et d'une capacité de 10 tonnes, le pont Massinda a été construit par les casques bleus indonésiens de la Monusco dans le cadre des projets impact rapide de la mission. Cet ouvrage répond à une demande de la communauté locale qui utilisait jusque-là une simple passerelle en bois peu adaptée au passage des véhicules. En période de pluie, la circulation était souvent interrompue, les eaux de la rivière Massinda débordant régulièrement. Selon des sources locales, ce pont va faciliter l'accès aux zones de desserte agricole, renforcer les échanges économiques entre les territoires d'Irumu et de Mambasa et appuyer les opérations de traque des ADF dont la menace persiste encore dans la région. Christophe Mounianderou, acteur de la société civile.
Nous sommes dans une zone menacée par les terroristes ADF. Qu'il n'y a pas de tel pont qui pourrait permettre aux forces armées pour une intervention rapide, c'est aussi un danger. Mais voilà, c'est déjà pour nous un grand avantage.
De son côté, l'administrateur du territoire d'Irumu, qui a réceptionné l'ouvrage au nom des populations locales, a souligné que cette infrastructure va contribuer au développement local et au bien-être des populations. Il convient de noter que la MONUSCO a déjà réalisé plusieurs ouvrages dans ces territoires dans le cadre de son appui aux institutions nationales pour la protection des civils. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
À Kisangani, les travaux de réhabilitation de la voirie urbaine de la commune de Lubunga ont officiellement démarré mardi dernier. Au total, 15 km de route seront asphaltés. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté. Si l'enthousiasme est au rendez-vous chez les habitants, certains observateurs préfèrent rester prudents. Le point avec Jacques Moukonkolé.
Les axes ciblés sont notamment les avenues Beachback, Anaflucus, avenue de la Poste et celle de la gare. Les boulevards Opala, Asande et Kasumbu sont également ciblés. Satisfaite, la population souhaite voir les normes de l'art être respectées.
On tient beaucoup à ça. C'est une bonne affaire, mais les travaux, bien sûr, mais nous voulons que les normes soient respectées.
Il faut que la population soit satisfaite à la fin de ces travaux. C'est ce que nous souhaitons.
Les temps est plus nuancé du côté des forces vives. Tout en saluant l'initiative, la société civile locale rappelle que l'annonce des travaux est une chose, mais leur achèvement en est une autre. Héritier Isomela, son président.
Nous voulons voir l'effectivité des travaux dans la commune de Lumunga. Mais nous ne voulons pas qu'on puisse lancer seulement les travaux aujourd'hui, mais l'effectivité puisse poser encore problème.
L'entreprise chargée de l'exécution est désormais au pied du mur. Pour garantir le succès du projet, l'autorité provinciale a été claire. Pour l'entrepreneur, respect strict du délai prévu pour 36 mois, protection des ouvrages par les services de sécurité et surtout un appel au civisme de la population pour accompagner ces travaux. Jacques Mkonkolé, Kisangani, Radio Kapi.
Retour en Ituri où environ 200 otages des rebelles des ADF ont été libérés ces deux derniers jours lors des opérations militaires menées dans le territoire de Mambasa. Ces personnes avaient été enlevées au mois de mars dernier lors de plusieurs attaques de ces groupes armés dans une dizaine de villages de ces territoires. La société civile appelle les FARDC à intensifier les opérations afin de libérer environ une centaine d'autres personnes encore détenues par les ravisseurs. Reportage d'Isaac Raymond, rendu par Jean-Claude Loki.
Ces otages ont été libérés en plusieurs vagues depuis mercredi dernier, principalement dans les localités de Bandiboame et Babumbe, situées à une trentaine de kilomètres de Mambasa Centre. Selon la société civile du Congo, au total, 144 d'entre eux se sont rendus au FARDC. Plus de 50 autres ont réussi à s'échapper pendant les opérations militaires et ont rejoint directement leurs familles, soit dans le territoire de Mambasa, soit encore au Nord Kivu. D'après cette structure citoyenne, environ 400 personnes avaient été prises en otage par les ADF depuis la mi-mars dans les villages de Makoko, Mutiacha, Bandiboame, Pumuzika, Manya, Mambukulu et Lumalisa. Elle appelle les forces conjointes FARDC et armée ougandaise UPDF à intensifier les opérations afin de libérer les autres otages. Marie-Noëlle Anotane, présidente de la société civile du Congo à Mambasa.
Nous demandons cette bravoure-là qu'elle puisse continuer dans le chef de la coalition, qu'il parte dans la profondeur pour démanteler toutes les bastions de ZADF. Ça va encore permettre de libérer tous les autres otages.
De son côté, l'armée confirme la libération de ces otages sans fournir plus de détails. Il convient de rappeler que lors des attaques des ADF depuis 8 mars dernier, au moins 100 personnes ont été tuées, des milliers d'autres ont fui leurs habitations avec d'importants dégâts matériels. Bounia, Jean-Claude Loki, Guilet, Radio Kapi.
Au sud Kivu, les récents affrontements survenus dans une majeure partie des hauts plateaux du territoire de Kalehe prolongent involontairement les vacances de Pâques chez les élèves. Écoliers, enseignants et parents ont abandonné leur village et par voie de conséquence, toutes les portes des écoles du groupement des Iralo sont fermées. Les acteurs de l'éducation ont pris la direction vers le territoire de Walikale dans la province du Nord Kivu. Jean Kassami revient sur la situation scolaire devenue hypothétique dans les hauts plateaux du territoire de Kalehe.
Aucune école ne fonctionne à Ziralo depuis les combats signalés dans la région la semaine dernière entre les forces belligérantes en présence. Enseignants et élèves étaient tous en vacances lorsque la guerre les a contraints de fuir chacun dans sa direction. La plupart se sont déplacés à Lulambo et Biriko dans les groupements de Walo-Alonda, territoire de Walikale et dans la province du Nord Kivu. Alors que les activités scolaires devaient reprendre lundi 13 avril après les vacances de Pâques, aucune école n'est opérationnelle dans les hauts plateaux de Kalehe. Un notable du coin s'explique.
On ne sait pas comment convaincre même les parents qu'ils pouvaient retourner dans les milieux parce que nombreux parents ne sont plus dans les hauts plateaux.
Sur l'axe Katasomwa, Bushaku, Nyawaronga et Nyamugari, les activités scolaires tournent au ralenti avec un faible taux d'effectifs des élèves et du personnel enseignant. Il rajoute aussi que
les chefs d'établissement des écoles primaires et secondaires qui sont là ont tenté d'ouvrir leurs portes lundi passé, ça n'a pas tenu.
Ce déplacement massif des élèves et du personnel enseignant intervient à moins de mois de la date de passation des épreuves certificatives des dissertations. Bukavu, Jean Kasami, Radio Okapi.
Au Kasaï central, 3 personnes ont trouvé la mort en l'espace de 5 jours dans la rivière Lulua, dans le territoire de Luisa, sur l'axe Luisa-Mouené-Ditou. À l'origine de ces drames les plus récurrents qui s'abattent dans la région et qui ont provoqué des inondations submergeant la passerelle érigée sur la rivière. La société civile locale indique que la circulation des personnes et des biens est devenue difficile. Elle appelle le gouvernement central à intervenir en urgence pour construire un pont sur cette rivière. Des détails avec André Katendenga la Mouloumé.
D'après nos sources sur place, les pluies diluviennes qui s'abattent dans la région ont entraîné une montée des eaux de la rivière Lulua sortie de son lit. Cette situation a causé la mort par noyade d'un homme dans les groupements des Anamuyero ainsi que de 2 autres personnes dans les groupements des Anakajimbi Kachuru. Ces personnes sont mortes au moment qu'elles traversaient la rivière. Paulin Kongolonsaka, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise dans les territoires de Luisa, appelle les gouvernements centraux à intervenir en urgence pour construire un pont sur cette rivière. Selon lui, cet ouvrage faciliterait la circulation sécurisée des populations sur cet axe routier reliant les territoires de Luisa à la ville de Mouena-Ditou en passant par la province de Lomami. Après avoir constaté le danger, l'administrateur du territoire de Luisa a interdit la traversée de la rivière jusqu'à la décrue des eaux. En attendant, la population reste confrontée à de nombreuses difficultés. Kananga, André Katendenga Lamouloumé, Radio Okapi.
À Kindu, la coordination provinciale du Centre congolais de lutte anti-mine du Maniema a célébré hier jeudi au stade Kamakuta la journée internationale pour la sensibilisation à la lutte anti-mine. Elle est placée cette année sous le thème « Investir dans la paix, c'est investir à la lutte anti-mine ». Les coordonnateurs provinciaux de ce service font savoir que son organisation s'engage à mener ses actions dans l'éducation au risque des engins explosifs, les déminages humanitaires et l'assistance aux victimes. On écoute Serge King Matenda dans cet extrait choisi par Florence Kizalunga.
Afin d'accomplir nos 5 piliers qui regorgent les CCLAM, celui des sensibilisations et assistance aux victimes des restes explosifs de guerre, nous sommes débattis bec et ongle ensemble avec la coordination provinciale pour assister avec le vivre et non vivre par nos voyants militaires et commandants et soldats des FARDC. En les dotant quelques vivres et non vivres, il était pour nous l'occasion de les interpeller, de faire une large diffusion aux lignes de front que les mines, les bombes et les restes explosifs de guerre tuent. Alors, parce que nous, les agents et cadres de CCLAM, nous n'arrivons pas en ligne de front. Il sera question pour eux d'élargir ces mêmes échanges de la sensibilisation à la lutte anti-mine et sauvegarder la population, les fils et filles congolais se trouvent sur ce sol. C'est là, sous le haut patronage du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, maître Jacquemin Chaban-Louko. Nous tenons également à remercier le garant du bon fonctionnement des institutions, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi de Tshilombo, qui ménage des efforts afin que la terre soit une terre saine, clean, propre et sans danger lié aux mines et restes explosifs de guerre. En tout cas, nous devons tenir compte pour que les mines ne soient plus dans notre province, dans notre pays et partout ailleurs.
Cultiver l'espoir, consolider la paix et assurer la justice pour les générations futures, sur le thème de la 152e Assemblée Générale de l'Union Interparlementaire en cours à Istanbul, en Turquie. Intervenant hier jeudi, le président de l'Assemblée Nationale de la RDC, Aimé Bodji Sangara, a dénoncé l'agression dont son pays est victime dans sa partie est, appelant la communauté internationale à des actions concrètes. Insistant sur l'urgence d'une paix durable, il réaffirme la position de la RDC, fondée sur le respect de la souveraineté des États, les dialogues dans le cadre constitutionnel et la lutte contre l'impunité. On l'écoute dans cet extrait proposé par Grace Hamzati Massanzi.
Au mépris du respect de l'intégrité territoriale, du droit international et en violation flagrante des instruments internationaux et régionaux relatifs à la défense et à la protection des droits humains, le Rwanda agresse de manière répétitive la République démocratique du Congo et s'est engagé dans un pillage systématique de minerais, commettant au passage des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Ce conflit récurrent a à ce jour causé la mort de plus de 10 millions de personnes, plus de 6,7 millions de déplacés internes, des centaines de milliers de réfugiés dans la région, et les Nations Unies estiment qu'une femme y est violée chaque 4 minutes. Bref, il s'agit ici de l'une des plus grandes catastrophes humanitaires des temps modernes. Pour les générations futures que nous ambitionnons de protéger, nous n'avons pas le droit d'échouer et l'histoire jugera notre capacité à transformer nos discours en actes. Pour mon pays, cultiver l'espoir, consolider la paix et assurer la justice ne sont pas des concepts abstraits. Ce sont des urgences vitales auxquelles le monde ne peut plus se soustraire.
Notez que ces assises, ouvertes mercredi pour 5 jours, réunissent plus de 2000 parlementaires venus du monde entier. La RDC y est représentée également par le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde, ainsi que plusieurs députés nationaux et sénateurs.
Actualité internationale.
Le Maroc et les États-Unis ont établi une nouvelle feuille de route de coopération militaire sur les 10 prochaines années à l'occasion de la 14e réunion du comité consultatif de défense maroco-américain à Washington. Les deux pays ont échangé sur les voies de renforcement et d'élargissement de leur coopération dans un contexte où Maroc et États-Unis ont vu leurs liens se renforcer encore un peu plus ces dernières semaines.
L'invité.
L'invité de ce journal est le chef de mission de surveillance du projet au sein de l'Agence congolaise des grands travaux, ACGT. Serge Diboué parle des avancées des travaux de la route Kananga-Kalambambouji dans le Kasaï central. Suivez son entretien avec André Katende Ngalamouloumé.
Ingénieur Serge Diboué, bonjour.
Bonjour, bonjour, monsieur le journaliste.
Le projet Kananga-Kalambambouji, qui est une route de l'espoir pour la région du Kasaï, à quel niveau vous êtes déjà avec l'exécution des travaux?
Avant de commencer la modernisation, nous avons trouvé la route quasi inexistante. On pouvait faire une semaine pour quitter Kananga, atteindre la frontière Kalambambouji. Mais nous avons donné aussi une promesse à la population qu'on commence avec la modernisation de notre route et la praticabilité. La praticabilité qui veut dire on devrait ouvrir la route de bout en bout. Et chose qui a été faite. Aujourd'hui, nous quittons la ville de Kananga à 8h. On arrive à Kalambambouji, on travaille, on fait tout autour de 18h-19h, on a déjà regagné la ville, qui veut dire on a terminé avec les travaux de praticabilité. En termes de modernisation, de construction de notre route de Kalambambouji, là nous évoluons, nous sommes autour de PK50, où nous avons fait 20 km de couche de roulement, notre béton bituminé bien posé. Nous évoluons avec la couche de fondation, de couche de base, les caniveaux, nous évoluons tranquillement. Nous avons déjà fait 20 km de béton bituminé. Nous avons déjà fait 30 km de couche de base et 37 km de couche de fondation.
Au total, les travaux déjà effectués, c'est à quelle distance?
Vous pouvez faire 40 km sans avoir vu la terre. Et nous évoluons chaque jour ici malgré le climat. Notre zone ici, surtout ce mois d'avril, il pleut presque chaque jour. Et nous sommes obligés de travailler avec, d'évoluer avec. Et le mois de mai, là, nous allons reprendre notre vitesse de croisière.
Nous avons vu à travers les réseaux sociaux des photos et vidéos montrant des véhicules stagnés dans des eaux de pluie. Sur la route, qu'est-ce qui a fait que cela arrive?
Nous avions fait la praticabilité, c'est une route en terre. Nous avions fini, mais c'est prévu l'entretien. On a tardé légèrement avec l'entretien, mais la route est légèrement dégradée. L'entretien a déjà démarré et nous évoluons avec l'entretien. Nous arrangeons partout les tronçons déjà dégradés. Mais les photos que vous voyez dans les réseaux sociaux, c'est pas l'axe Kalambambouji. Ce sont les voies de déviation. quand nous travaillons, quand nous sommes sur notre axe, nous exécutons les travaux. Il y a des fois là où nous arrivons, nous devons placer des buses, nous devons mettre des dallos, nous coupons la route. On ne peut pas pénaliser les usagers de la route. Alors nous faisons des voies de déviation pour permettre à ce que les produits de première nécessité qui viennent de Kalambambouja atteignent facilement la ville. Eh bien, c'est sur cette voie de déviation qui est dégradée complètement où vous avez vu les photos d'être distillées dans les réseaux sociaux. Et nous avons demandé à l'entreprise d'aller aussi arranger cette voie de déviation.
Vous veniez de nous dire que les travaux de modernisation sont à peu près 40 km alors que la route est de 230 km. Il y avait des promesses qu'à la fin de l'année 2027, la route devrait être finie de Kananga à Kalambambouji. Est-ce que vous êtes sûr que à la fin de 2027, ces travaux seront finalisés complètement?
Les travaux vont finir parce que tout est là. Malgré les intempéries, comme j'ai dit précédemment, nous évoluons, nous avançons. Et cette année, nous sommes au mois d'avril. Avant décembre, vous allez vous-même constater, vous allez revenir. Je vais vous recevoir, vous allez voir ce que nous allons exécuter. L'année prochaine également, nous avons toute l'année, tout le temps pour travailler. Et pour votre information, nous allons encore renforcer les entreprises qui vont venir permettre à ce que nous soyons dans les délais. Une autre entreprise viendra juste pour s'occuper des ponts et pour nous permettre d'être dans les délais.
Ingénieur Serge Duboué, nous vous disons merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
C'était notre invité, le chef des missions de surveillance du projet au sein de l'Agence congolaise de grands travaux ACGT. Serge Diboué s'entretenait à Kananga avec André Katendengala Mouloumé. Fin de ce journal qui a été préparé par Jean Gandou et Richard Junior Kamunga. Jean-Claude Tiala et Dédoné Nangassa ont assuré la technique. Jean-Désiré Kanyama vous l'a présenté. Merci pour votre fidélité à Radio Okapi. Bonsoir chez vous.